Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Et aujourd'hui, évidemment, ce qui nous occupe, c'est la dissolution annoncée par Emmanuel Macron. On voit quand même que la première conséquence de cette dissolution, c'est un boulevard qui s'ouvre pour l'extrême droite, avec une forte probabilité de cohabitation soit avec un représentant comme Bardella comme Premier ministre. On voit donc que c'est un séisme politique qui est tout à fait... incroyable qu'il y a un coup politique qui a été donc fait par ce président de la République et qui, au lieu de lutter contre les idées d'extrême droite, au contraire s'emploie depuis des années à le faire monter. Et aujourd'hui, eh bien, on est devant un choix politique extrêmement grave, puisqu'on sait très bien que les dates qui ont été choisies, le 30 juin et le 7 juillet, ne permettent pas de faire campagne, que donc la dissolution de l'Assemblée nationale va précipiter des choix qui vont être arrachés, on va dire, en vitesse, vite fait, bien fait, et que c'est quand même l'extrême droite qui risque d'arriver au pouvoir. Donc évidemment, par rapport à ça, il y a évidemment des questions à se poser, une stratégie à avoir, et voir comment c'est possible de mettre en place un front de gauche, un front ouvrier, un front antifasciste qui permettrait d'éviter cette catastrophe annoncée. Donc on va tout de suite rejoindre Françoise qui va nous parler de l'histoire des dissolutions et c'est la première intervention.
Et nous venons d'écouter le son d'Émile. C'est à vous.
Bonjour Françoise.
Bonjour Graziella, bonjour tout le monde. Eh bien oui, effectivement, on est dépité ce matin, hein, parce que devant cette dissolution, évidemment, mais aussi devant le fait qu'il y a 35 sièges donc pour l'extrême droite que l'on envoie au Parlement européen. Voilà, et qu'il y a d'autres pays aussi comme ça en Europe. Donc, on s'inquiète effectivement. Alors moi, je vais parler dans un premier temps de cette Assemblée nationale que Macron s'apprête à dissoudre. Cette Assemblée nationale, il ne faut pas l'oublier, et je trouve qu'il faut aussi replacer dans l'histoire cette naissance d'Assemblée nationale qui fait que on a la souveraineté du peuple normalement, de la nation, et non plus de la souveraineté royale comme c'était avant 1789. C'est donc dans cette période révolutionnaire qu'est née cette notion. Il existe donc des chambres de représentants, et plus tard, sous Napoléon III et Louis XVIII, tout cela sera confisqué, puisque la totalité, et sous Charles X jusqu'en 1830, puisque la totalité du pouvoir appartiendra à l'exécutif. Effectivement, ce rapport exécutif-législatif, c'est toujours là que l'on mesure une démocratie, et judiciaire aussi, l'indépendance de la justice. Après la révolution de 1830, sous Louis-Philippe, la souveraineté est de nouveau partagée entre le roi et les représentants de la nation, mais de plus en plus, c'est l'exécutif qui prend le pas. La révolution de 48 amène un bref moment, une constitution républicaine, ultra-démocratique, où l'Assemblée nationale est rétablie dans son pouvoir. Très vite, malheureusement, cette deuxième république est brisée par la bourgeoisie, qui préfère s'en remettre, tuer la république, et s'en remettre au Second Empire de Napoléon III, qui muselle de nouveau le corps législatif, en nommant des fonctionnaires à vie ou des élus à vie. Il faut donc attendre la chute du Second Empire, fin 1870, et les lois constitutionnelles de 1875, qui consacrent la naissance du régime parlementaire de la Troisième République, avec une Chambre des députés élue pour 4 ans au suffrage direct et un Sénat pour 9 ans au suffrage indirect. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, avait le droit de dissolution de l'Assemblée, mais en fait, ça ne s'exerça pas tout le long de cette longue Troisième République. Parenthèse de 40-44, où les pleins pouvoirs, comme aujourd'hui, risquent d'être donnés à l'extrême droite, à faire très attention à ça, effectivement, comme tu le disais, puisque Pétain, avec l'État français, muselle totalement l'opposition et fait du pouvoir exécutif le seul pouvoir. Donc après la guerre, eh bien, on rétablit un régime parlementaire par la Constitution de 1946 et le poids de l'exécutif et du législatif sont très discutés l'un par rapport à l'autre puisque la position de Gaulle est de renforcer l'exécutif, ce qu'il fera sous la Ve République. Finalement, la Quatrième République consacre un régime parlementaire à deux chambres pour le corps législatif. L'exécutif est tenu réellement par le président du Conseil, issu de la Chambre des députés. Donc c'est un régime parlementaire. Ce petit tour d'horizon pour rappeler que les rapports entre le pouvoir législatif et exécutif, et judiciaire bien sûr, et leur indépendance les uns par rapport aux autres, est la clé de voûte d'un régime démocratique. Et donc, il faut revenir là-dessus. Alors, sous la Ve République, en 58, après l'échec de la 4e, suite aux crises décoloniales, et à l'Algérie, notamment à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, et à la menace d'un coup d'État militaire, la 5e République apparaît avec De Gaulle, et c'est un régime où est affirmé le pouvoir exécutif, notamment renforcé par le vote au suffrage universel de l'élection du président de la République en 62. Malgré cela, une très large partie de la gauche non communiste se rallie assez vite au régime, participe aux élections. Le PC, à la suite aussi, va entériner cette 5e République, finalement, par leur participation. Il faut attendre Montebourg, qui, en 2001, évoque la 6e République, nouvelle constitution pour reconstruire la démocratie. En effet, il écrit en 2005, la 5e République est devenue le gouvernement d'un seul, sans le peuple et contre le peuple. Alors, après son passage au gouvernement, Montebourg s'est éparpillé un peu, disons, et il n'a pas convaincu. C'est Mélenchon qui, 10 ans après, va reprendre avec LFI la volonté de changement de République, enlevant le sens présidentiel avec une idée d'assemblée constituante pour y arriver. C'est autour de cette idée que naît la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES. Alors cette nouvelle dissolution de Macron apparaît après que Macron ait montré qu'il confisque le pouvoir à l'Assemblée sur plusieurs textes fondamentaux par ses légiférations par décret. Totalement, donc il a enlevé déjà, il a vidé de son caractère démocratique et d'équilibre des pouvoirs la 5e République. Alors cette dissolution sera la 6e dissolution de la 5e République. En effet, la dissolution, c'est une arme de la 5e République aux mains de l'exécutif. Ils font planer toujours ce caractère dissolu quand quelque chose ne va pas. De la même façon, la motion de censure est une arme la motion de censure est une arme aux mains du législatif pour faire barrage au gouvernement. Mais malheureusement, cette motion de censure, à part celle qui a eu lieu en 62 pour lutter contre l'élection au suffrage universel du président de la République et qui a abouti par une large victoire du gaullisme en 62, Aucune autre motion de censure n'a obtenu la majorité à l'Assemblée depuis. Largement, le 49-3 a confisqué finalement une partie du pouvoir législatif à l'Assemblée. Sixième dissolution donc proposée par Macron. Il y en a eu deux sous De Gaulle, celle de 62 que je viens d'évoquer, et celle après le mouvement social de 68, où De Gaulle a dissous l'Assemblée qui avait été élue en 67, et où les nouvelles élections législatives avaient amené les gaullistes à une forte majorité, confortant De Gaulle. Ensuite, il y a eu deux dissolutions avec Mitterrand. Deux dissolutions. La première, suite à son élection présidentielle, Mitterrand dissout en 81 l'Assemblée nationale, élue en 78, et cela donne à la nouvelle majorité, une nouvelle majorité absolue aux socialistes en 81. Puis une deuxième dissolution, après sa deuxième élection en 88, Mitterrand dissout l'Assemblée le 14 mai 1988. Entre-temps, il y avait eu une cohabitation avec Jacques Chirac, Premier ministre de 86 à 88. Et les nouvelles élections législatives de 88 donnent une majorité relative aux socialistes. Puis ensuite, bon, il y a eu la cohabitation de 93 à 95, etc. Mitterrand-Balladur. Si ces quatre dissolutions ont donné l'avantage à la majorité présidentielle, ce n'est pas du tout le cas de celle de Chirac, qui utilise la dissolution dans l'espoir de conforter sa majorité en crise. Donc là, il fait un mauvais calcul. Hein. Il avance les législatives d'une année et en fait, il va échouer dans cette manœuvre, on peut dire, puisque le regroupement de la gauche plurielle fait que la majorité, ils obtiennent la majorité à l'Assemblée, ce qui entraîne une troisième cohabitation avec Jospin comme Premier ministre. Alors, il n'y a plus eu de dissolution depuis, d'abord parce qu'on a mesuré les risques, l'exécutif a mesuré les risques, mais aussi parce que la réforme constitutionnelle des années 2000, qui a été entérinée par un référendum dans l'indifférence générale, puisqu'il y a eu 70% d'abstention et 16% des votants blancs ou nuls, a fait disparaître le septennat au profit du quinquennat. Et ça a changé le caractère de ces élections, puisqu'aussi on a inversé le calendrier, c'est-à-dire que l'élection présidentielle passe avant les législatives. Et ce renforcement de l'exécutif, finalement, hein, a amené aussi une médiatisation encore plus grande de la vie politique, une rapidité, une politique à court terme qui favorise les partis qui fonctionnent à coup de scoop, comme l'extrême droite, par exemple, et ça, entre autres, hein, comme facteur de montée de l'extrême droite, a joué là-dessus. Aujourd'hui, donc, cette dissolution n'apparaît pas à la suite de déboires franco-français, mais tout de même de cette élection dramatique aux élections européennes. Et Macron, quel est son pari? On ne sait pas trop. Ou il sort renforcé en agitant le spectre de l'extrême droite et en voulant couper l'herbe sous les pieds de la gauche qui n'aurait pas le temps de s'unifier dans cette échéance, soit il mise sur un jusqu'au boutisme du RN qui, voulant faire la démonstration que le RN est incapable de gouverner, c'est improbable aussi, soit il se trouve devant une chambre gauche-droite qui l'empêchera de gouverner par les motions de censure. Dans tous les cas, c'est un pari très risqué, et peut-être aussi s'agit-il de quelque chose de plus grand. Hein, le capitalisme s'est servi de l'extrême droite au moment de recomposition, au moment de recomposition aussi géopolitique dans cette situation aujourd'hui. Enfin, dans tous les cas, c'est un pari très risqué pour nous, et pour nos luttes et pour les peuples en général. Voilà cette échéance très rapide. La gauche est pour l'instant divisée, mais on peut toujours, comme le disait Ruffin que je viens d'entendre là à la radio, voulant à toute force un front populaire de gauche pour surmonter ces difficultés, effectivement, le seul espoir pour ne pas tomber là-dedans, c'est d'agir dans nos associations, partis, syndicats, pour appeler à un nouveau rassemblement de la gauche, dispersé pour l'instant, un renforcement, un rassemblement qui permettrait seul soit de contrer un renforcement du macronisme, soit de contrer l'extrême droite au pouvoir. Voilà.
Merci beaucoup Françoise pour cette histoire des dissolutions et à lundi prochain.
À lundi prochain.
Au revoir. Bonne Françoise.
Journée. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour.
Alors, on avait envie de savoir ce que tu penses aujourd'hui de ce qui s'est passé hier soir avec cette montée de l'extrême droite et cette annonce de la dissolution.
Mais alors déjà, je pense qu'il faut dire que c'est une sévère défaite pour Emmanuel Macron. C'est la première chose qui est une évidence, parce que le parti au pouvoir fait à peine 14%. Ensuite, on a une extrême droite qui est extrêmement forte. Ça, c'est, elle a jamais été aussi forte à 40% toutes les extrêmes droites réunies. Et on a une situation qui ne suffisait pas à être suffisamment explosive et Emmanuel Macron annonce la dissolution, ce qui entraîne un risque que la dynamique portée par les élections européennes amène l'extrême droite au pouvoir dès le mois de juillet.
Et par rapport à ça, il y a quand même une énorme inquiétude, je crois, qui est partagée par des millions de personnes, puisque c'est totalement inattendu d'ouvrir un boulevard comme ça au Rassemblement national.
C'est incompréhensible, c'est un jeu. Emmanuel Macron il joue à l'apprenti sorcier. Enfin, soit son objectif, c'est de se dire qu'il pourrait potentiellement réussir à récupérer une majorité, mais personne n'y croit, soit il se dit que son objectif, c'est d'user le pouvoir du Front National ou du Rassemblement National quand il arrive et qu'il y serait pendant 2 ans pour qu'il ne gagne pas la présidentielle derrière. Les choses ne vont pas se passer comme ça. C'est extrêmement grave. C'est un pari qui va se faire vraiment en plus sur le dos des gens, parce que ce sont les plus précaires, ce sont les minorités, toutes les minorités qui vont subir, les associations, ce sont tous les collectifs. Ça va être c'est l'état de droit et la démocratie qui sont en danger, et peut-être pas en 2 ans, mais les gens vont subir et vont subir très lourdement cette arrivée de l'extrême droite au pouvoir, si elle y arrive, et il faut tout faire pour l'empêcher.
Alors, le choix des dates également, le 30 juin et 7 juillet, c'est quand même impressionnant de décider comme ça, à l'impromptu, qu'on va mettre donc les partis politiques devant le fait accompli, il faut constituer des listes, il faut pouvoir se présenter, tout se fait dans l'urgence. Quel est le sens de cette manœuvre ?
Le sens de cette manœuvre, c'est sans doute d'empêcher justement que la gauche puisse notamment proposer une alternative à l'extrême droite et qu'il soit le seul en ordre de bataille avec sa majorité. C'est sans doute aussi un coup politique plus qu'autre chose de sa part. Effectivement, c'est des délais extrêmement courts. Après, il avait un autre choix qui aurait été de reporter cette dissolution au mois de septembre, de ne pas l'enclencher automatiquement dès à présent. Mais à partir du moment où il la déclenche, faisait que c'était nécessairement le 30 juin et 7 juillet, puisque s'il reportait d'une semaine, c'était le 7 juillet et le 14 juillet. Le 14 juillet est un jour férié. Il ne peut pas non plus faire 14 juillet et 21 juillet. Mais ça, c'est un choix qu'il a quand même fait. de le déclencher dès hier. Il aurait pu le déclencher fin août pour que les élections aient lieu en septembre.
En fait, il veut prendre de vitesse ses concurrents.
C'est ça, c'est exactement ça.
Mais quand même, c'est une prise de risque énorme. À moins que depuis le début, il ait pensé que l'extrême droite est tout à fait fréquentable.
Je ne sais pas s'il le pense. En tout cas, il prétend le contraire. Et son objectif, ce serait de l'abattre et de conserver le pouvoir. Je pense que c'est même s'ils reprennent un certain nombre de ces thèmes et qu'ils le mettent en application, on l'a vu avec la loi sur l'immigration, mais je pense qu'on est quand même dans un jeu de pouvoir où son objectif est de faire en sorte qu'il garde le pouvoir à long terme, enfin en tout cas que sa majorité puisse à nouveau l'emporter. Au fond, peu importe ce que pense Emmanuel Macron, quels sont ses objectifs, et on s'en fiche, la question c'est pas ça. La question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, et la question c'est surtout de ne pas se laisser entraîner non plus dans ces abysses, et les dangers qui sont devant nous doivent être pris au sérieux.
Alors la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même une référence sur la question en général des droits démocratiques, et aujourd'hui je suppose que l'inquiétude est quand même très forte par rapport à tout ce qu'on est en capacité de perdre en termes de droits. La situation va être encore pire que précédemment, notamment pour les minorités.
Si l'extrême droite l'emporterait, oui, c'est une évidence. Il y a un message qu'on a tendance à entendre parfois de certains qui disent que finalement l'extrême droite ou le camp au pouvoir, c'est à peu près la même chose. Je ne le crois pas. Oui, le camp néolibéral, les partis néolibéraux, le gouvernement depuis des années portent des atteintes très graves à la démocratie, aux minorités, portent des atteintes à l'effectivité des droits. Et néanmoins, c'est quand même pas la même chose que l'extrême droite au pouvoir. On l'a vu, en plus, on a des expériences. On a des expériences récentes, et pas seulement nos expériences anciennes. On l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil. La dégradation, elle est encore plus importante des droits des gens. Ça peut aller très vite et ça peut faire très très mal à beaucoup de gens. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête et de se dire que c'est pas anodin. L'extrême droite, c'est pas anodin.
Il va falloir quand même que aujourd'hui il y ait une sorte de réconciliation, en tout cas du camp de la gauche, si on veut faire obstacle à cette venue du Front National, du Rassemblement National.
La LDH a décidé d'appeler dès ce matin l'ensemble des forces politiques progressistes à dialoguer et puis à mettre ensemble toutes leurs divergences de côté et à se mobiliser afin de proposer un front commun dans le champ électoral face à l'adversité. Hein. Et nous allons travailler à cela avec toutes les forces syndicales et associatives qui partagent cet objectif avec nous.
Il se trouve que le Rassemblement National a fait quand même un effort pour se montrer plus présentable, mais on voit quand même qu'il y a une porosité avec des groupes extrêmement violents. Et avec, on voit aussi qu'il y a des menaces d'attentats sur le sol français. Ils viennent beaucoup de masculinistes, de gens d'extrémistes de droite. Et pour autant, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement National.
Déjà, il y a de la porosité. On voit que beaucoup des anciens, beaucoup de gens qui viennent de ce parti sont dans des milieux qui sont effectivement très violents. Ils essayent de les cacher ou de les mettre de côté, mais ce nettoyage, il est en surface. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un travail pour chasser, un, les idées qui y ont conduit, deux, ni avoir un discours extrêmement clair et ferme là-dessus. Et puis surtout, il faut se dire que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, et ça c'est aussi un élément important, et à la différence peut-être d'un gouvernement néolibéral, c'est que ces groupes d'extrême droite se sentent extrêmement puissants, forts, et légitime à faire des actions qui peuvent être dangereuses. Voilà, donc c'est le et puis avec une du coup avec un gouvernement dont l'objectif principal ne serait pas forcément de lutter contre ces violences d'extrême droite. Donc c'est là où c'est extrêmement dangereux et où il peut y avoir des violences interindividuelles qui peuvent exploser en plus de la violence d'État.
On en avait vu quand même qu'il y avait une dérive de ce gouvernement, de cette présidence Macron vers un État plus qu'autoritaire avec une quand même répression qui s'est abattue très violemment sur des féministes, sur des gens qui défendent des causes démocratiques. Et on se demande quand même s'il n'y a pas une attirance ou quelque chose de ce côté-là chez Emmanuel Macron.
Mais qu'il y a une tendance autoritaire chez Emmanuel Macron, ça, je pense que c'est on le constate depuis longtemps. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on sait et mais qui serait décuplé avec l'extrême droite au pouvoir. Et puis surtout, le danger, il est aussi que précisément des gens comme Emmanuel Macron et d'autres avant, hein, nous ont habitués à ces formes un peu autoritaires, ce qui fait que du coup l'extrême droite, si elle arrive au pouvoir, on a déjà été habitués à une certaine forme d'autoritarisme. Et donc ce sera pour elle, il y a déjà beaucoup de choses qui ont sauté et qui fait que pour elle la prise de pouvoir sera d'autant plus facile parce que il y a plein de choses dans l'État que aussi des contre-pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas que la violence, les violences policières, il y a aussi tous les contre-pouvoirs qui ont été affaiblis de manière extrêmement forte, qui ont été attaqués par les gouvernements différents d'Emmanuel Macron. Donc les associations sont exsangues comme elles ne l'ont jamais été. Donc voilà, le danger, il est pas que là-dessus, il est aussi lié à cette habituation à l'autoritarisme depuis quelques années.
Donc en fait, une espèce de soumission, notamment en enlevant des droits, notamment je pense aux syndicats qui ont perdu énormément de droits syndicaux toutes ces dernières années, avec très peu de moyens maintenant par rapport à avant. Et c'est vrai que là, ouais, y a un peu une culture de la soumission et de l'habitude à obéir, quoi, finalement.
Bah ouais, on a des résistances, mais qui ne sont pas non plus inépuisables. Alors, il faudra voir comment ça se passera si jamais s'ils arrivaient au pouvoir. Mais bon, je pense aussi qu'il faut dire, il ne faut pas parler que d'eux. Il faut aussi se dire que la construction d'une alternative, elle est possible. Et il faut aujourd'hui aussi se battre pour ça. Alors, il faut rappeler aux gens et à ceux qui pensent que leur sujet, leur querelle de parti et autres sont plus importantes que la défaite de l'extrême droite. Donc il faut leur rappeler le danger de l'extrême droite, mais il faut aussi derrière, pas seulement se dire il faut construire une alternative qui puisse l'emporter face à l'extrême droite, mais aussi une alternative qui soit porteuse d'espoir et qui soit en capacité de prouver à long terme qu'elle peut changer effectivement en bien et être un véritable espoir démocratique, écologique et social.
Eh bien, merci beaucoup pour ces paroles qui font du bien. Pierre-Antoine Cazot de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux. Et bien entendu, on se tient au courant, on reviendra vers vous pour la suite de cet épisode politique inédit en France. Merci beaucoup Pierre-Antoine.
Au revoir.
Donc, on vient de parler fort longuement dans cette émission du risque que représente l'extrême droite, son arrivée possible, en tout cas suite à la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de forces en France qui s'opposent à tout ça. Et pour commencer, il y a un rassemblement ce soir même, lundi 10 juin à 20h, place de la Victoire, qui est appelée par une organisation Antifa, l'OAB. Et il y a plein de monde qui a décidé de se rallier à cet appel pour commencer à nous unir et à nous rassembler contre ce projet d'extrême droite fascisante.